VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 8 décembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebuga. Les titres pour commencer, Mondial 2022, le Maroc s'invite au festin des quarts de finale. En RDC, 4 morts dans des affrontements intercommunautaires en Ituri. Au Burkina Faso, au moins 9 morts en 2 jours dans des attaques de djihadistes présumés dans la région du centre-nord. Au Nigeria, accusé d'avortement de masse sur des femmes rescapées de djihadistes, l'armée dément. L'Allemagne démantèle un réseau armé prêt à renverser les institutions démocratiques allemandes. Au Pérou, le président Pedro Castillo destitué et arrêté, sa vice-présidente investie à la tête du pays. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Les grandes nations se sont taillées la part du lion pour composer les quarts du Mondial 2022 avec des chocs alléchants vendredi et samedi comme Angleterre-France ou Pays-Bas-Argentine et au double fait, les Lions de l'Atlas, présents pour la première fois à ce stade de la compétition, Eric.
La victoire historique au tir au but du Maroc mardi contre l'Espagne a bouleversé un tableau final où jusque-là, les grandes nations avaient tenu leur rang. Du Brésil à l'Argentine en passant par la France ou le Portugal. Dans la lignée des éliminations précoces de la Belgique ou l'Allemagne en phase de poule, la sortie de l'Espagne confirmait que cette Coupe du Monde atypique dans son calendrier, sa programmation et sa géographie réserve encore des surprises. C'est un accomplissement historique pour le Maroc qui égale la meilleure performance d'une nation africaine au mondial et peut espérer désormais un dernier carré inédit. À Benigan, Amouzou dit coach Fofo, ancien international togolais et fondateur encadreur au centre de formation de football Edison dans le Maryland, ici aux États-Unis, explique le code maître du sélectionneur marocain Walid Regragui.
Je crois que lui-même aussi l'a joué en Europe, il a joué en France. Ils avaient déjà des yeux sur certains joueurs qu'il a pu amener dans cette équipe qui ont changé beaucoup de choses. Donc je crois que de son entourage et de sa philosophie qu'il a pu adopter et mettre sur place, il y avait la confiance, je peux le dire qu'il y avait cette confiance qui a été établie, qui fait qu'aujourd'hui le miracle est en train de se produire. Donc cette relation entre lui et les joueurs ont été vraiment automates et ont changé tout pour cette donnée de cette Coupe du Monde au Qatar pour le groupe du Maroc.
Hakim Ziyech, comment vous évaluez son impact et son retour?
Je crois qu'il a apporté beaucoup. C'est un joueur qui aime prendre les décisions, c'est un meneur de jeu, c'est un joueur qui accompagne, c'est un joueur qui donne le ton sur le terrain. Donc c'est ce qui fait que bon, mais son retour a donné un plus à ce groupe.
En 2018, l'écart s'était résumé à un bras de fer entre l'Europe et l'Amérique du Sud. 4 ans plus tard, le Maroc a rompu ce duopole, même si le nombre de nations européennes qualifiées 5 sur 8 alimente le risque de voir la mainmise du vieux continent se poursuivre, comme à chaque édition depuis 2002. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe.
Bonjour. Le casting des quarts de finale de la récente Coupe du Monde de football est un des éléments qui aide la FIFA à réactualiser les rapports de forces régionaux au sein de l'organisation festière mondiale en termes de représentativité lors des phases finales ou de présence dans l'organe suprême de décision de cette organisation. Au début, l'Europe avait la part belle avec 9 places sur 16 en phase finale et une présence permanente à la tête de la FIFA. Mais peu à peu, les autres régions se sont créées de l'espace au point que l'Afrique, parent pauvre du système à l'origine, a actuellement 5 représentants en phase finale et a même pu diriger l'organisation par intérim à l'époque du scandale du FIFA Gate. Dans la phase finale de la compétition qui commence ce vendredi, le duel Europe-Amérique latine se poursuit. L'Argentine et le Brésil affrontent la citadelle européenne représentée par la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Croatie et le Portugal, ce ratio étant logique au vu du nombre de pays agréés par région et du poids sportif et financier du vieux continent actuellement. le Maroc est le seul représentant du sud du football mondial, d'où l'importance du choc Maroc-Portugal ce samedi, où un espoir du porte-parole des 100 voix peut contribuer à faire évoluer cette dynamique. À bientôt.
La Coupe du Monde au Qatar est une excellente occasion de briser la domination européenne, avait déclaré Cafu, ancien défenseur et capitaine des champions du monde brésilien 2002, avant le tournoi. Après 3 semaines de compétition, le Mondial 2022 au Qatar réalise de grosses audiences télévisées. Suivez le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Well, of course, we hope that the World Cup continues and concludes as it has started.
Donc, bien sûr, nous espérons que la Coupe du Monde se poursuivra et se terminera comme elle a commencé. Un succès fantastique. Je suis sûr que nous atteindrons les 5 milliards de téléspectateurs dans le monde. En ce qui concerne l'affluence dans les stades, ce qui s'affiche complet, pratiquement à chaque match, les festivals, les supporters, les différentes fan zones sont aussi très fréquentées par des gens qui y font la fête et s'amusent. Au bout du compte, nous voulons simplement donner de la joie et des sourires aux gens du monde entier. Et c'est ça le football, c'est ça la Coupe du Monde.
Les Bleus peuvent-ils devenir la première nation à conserver son titre mondial depuis le Brésil de Pelé en 1962? Il faudra déjà dompter les Anglais en quart avant de penser à une éventuelle demi-finale contre le vainqueur du duel entre le Maroc et le Portugal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 4 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des membres de 2 communautés dans un conflit autour d'une mine d'or artisanale dans la province de l'Ituri. Rosine Mounezero.
Ces affrontements à l'arme à feu ont opposé durant 2 jours des jeunes Bira à des Hema, dans la chefferie de Baboa Bokoe, à 10 km de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Jonas Zorabo Lemi, responsable de la chefferie, donne un bilan de 4 morts et 2 blessés. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a confirmé qu'un conflit foncier autour d'un gisement aurifère a provoqué des morts. Le gouverneur de la province, le lieutenant général Johnny Luboya, a condamné cet incident qui a causé une panique à travers tous les villages environnants. Il a aussi prévenu que les fauteurs de troubles et porteurs d'armes illégaux se verront poursuivis par la justice. La région aurifère de l'Ituri a renoué avec les violences depuis 2017 avec l'avènement de la milice Codeco qui prétend défendre la communauté lindou contre les Hema. Pourtant, des groupes armés actifs dans l'est du pays ont pris part à Nairobi à des pourparlers avec le gouvernement de Kinshasa qui se sont achevés mardi. Une prochaine session de discussion est prévue en janvier.
Au Burkina Faso, au moins 9 civils ont été tués en 2 jours dans 2 attaques de djihadistes présumés dans la région du centre-nord, selon des témoins mercredi. La première, qui a fait 5 morts et 2 blessés, a eu lieu mardi quand des assaillants à bord de motos ont ouvert le feu sur des habitants aux abords du village de Kourpélé, près de Kongoussi, chef-lieu de la province du Bam, a dit un de ses témoins, précisant que plusieurs personnes ont commencé à quitter la localité pour rejoindre Kongoussi à 10 kilomètres au nord. Un autre habitant a lui parlé de 7 morts, expliquant que la veille, les terroristes avaient déjà attaqué lundi le poste de police situé entre Kourpélé et Kongoussi. Cette attaque est survenue après celle menée lundi dans la province voisine du Séno, qui a fait 4 morts lorsque des individus armés ont, selon des témoins, ciblé un convoi de commerçants. Des opérations sont en cours dans ces zones et d'autres, a indiqué une source sécuritaire, affirmant qu'un bilan global sera communiqué en temps opportun. Au Nigeria, les forces armées du pays sont accusées d'avoir mené, depuis près de 10 ans, un programme d'avortement de masse secret, systématique et illégaux sur des femmes rescapées, enlevées et violées par des combattants djihadistes dans le nord-est du pays. Ces accusations, contenues dans une enquête de l'agence de presse Reuters, publiée mercredi, ont été démentis en bloc par l'armée, qui assure que sa mission est de protéger les civils et qualifie l'enquête d'insulte aux Nigérians et à leur culture. L'avortement est illégal au Nigeria, sauf lorsque la vie de la mère est en danger, et dans le nord musulman, il est passible de 14 ans d'emprisonnement, rappelle l'enquête de Reuters. En Guinée équatoriale, c'est ce jeudi que le président Teodoro Obiang-Nguema, réélu le 20 novembre dernier, prête serment à Malabo, la capitale, en présence de plusieurs de ses concitoyens qui n'ont connu que lui comme dirigeant du pays. Il est au pouvoir depuis 43 ans, nous rappelle notre correspondant sur place, Samuel Obiang-Bana.
Placé sous le signe de la continuité, le chef de l'État Teodoro Obiang-Nguema, 80 ans et au pouvoir depuis 43 années, prête serment ce jeudi. Il va déclarer fidélité à la Constitution au cours d'une cérémonie en grande pompe au bord de la mer à Malabo. L'investiture du président côte-guinéen réélu pour un sixième et dernier mandat de 7 ans va se dérouler en présence d'au moins 5 chefs d'État africains, dont Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Une grande parade d'au moins 1500 membres des forces armées est prévue. Le président Teodoro Obiang-Nguema a été réélu avec 94,9% des voix face à 2 candidats de l'opposition. Samuel Obiang-Bana, Malabo, pour VOA Afrique.
En Allemagne, un prince, d'anciens soldats d'élite, une ressortissante russe et une ancienne députée d'extrême droite ont vu leur plan de renversement des institutions déjoué hier mercredi. Yacouba Ouedraogo.
Cette cellule, nourrie à l'idéologie des Reichsbürger, signifiant « citoyen du Reich », s'est construite avec une organisation quasi-gouvernementale en vue d'un coup d'État. Elle s'était dotée d'un conseil avec des personnes désignées pour certains portefeuilles ministériels et d'un bras militaire avec une nouvelle armée, a décrit le procureur antiterroriste Peter Frank. Il a ajouté que cette mouvance extrémiste, fondée au plus tard fin 2021, a pour objectif de venir à bout de l'ordre étatique. 25 personnes ont été arrêtées dans le pays, en Autriche et en Italie. L'enquête vise 52 personnes. La justice les soupçonne d'avoir fait des préparatifs pour pénétrer violemment dans la Chambre des députés à Berlin. Parmi les personnes arrêtées, des militaires dont un encore en fonction. Autre protagoniste, la Russe Vitalia B., intermédiaire pour tenter de prendre contact avec les autorités russes, selon les procureurs. Le Kremlin a démenti toute ingérence russe. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est dit profondément inquiet. Les autorités allemandes ont classé la violence d'extrême droite au premier rang des menaces à l'ordre public avant le risque djihadiste. Elles estiment à 20 000 les militants de la mouvance des Reichsbürger en Allemagne.
La Cour suprême des États-Unis a affiché ses divisions hier dans une affaire de droit électoral qui pourrait révolutionner l'organisation des scrutins pour la Maison-Blanche et le Congrès. Michel Joseph.
Vote par correspondance, horaire d'ouverture des bureaux, documents à présenter pour s'inscrire sur les listes électorales, la Constitution confie aux élus de chaque État la tâche de fixer l'époque, le lieu et la procédure des scrutins. Leurs lois sont toutefois soumises au contrôle des tribunaux locaux. C'est ce que les élus de la Caroline du Nord veulent changer en saisissant la Cour suprême. Les élus locaux, menés par Tim Moore, le chef républicain de la Chambre, se sont tournés vers la Cour suprême en reprochant au pouvoir judiciaire de l'État d'avoir usurpé leur rôle. Lors de l'audience, 3 juges progressistes de la Haute Cour se sont opposés à cette doctrine dite des législateurs d'État indépendants. Les positions des 6 juges conservateurs semblent moins claires. Avant l'audience d'hier, les démocrates et les grandes associations de défense des droits civiques ont écrit à la Cour suprême pour la dissuader d'adopter la nouvelle théorie jugée dangereuse pour la démocratie. Le Parti républicain a jugé absurde leur discours alarmiste. La Cour doit rendre sa décision avant le 30 juin l'année prochaine.
Au Pérou, destitution et arrestation du président Pedro Castillo et investiture de sa vice-présidente Dina Boluarte à la tête du pays. M. Castillo accusé de corruption au trafic d'influence, tout comme des membres de sa famille et de son entourage politique, avait tenté son va-tout en annonçant la dissolution du Parlement, qui essayait de le faire tomber, une manœuvre immédiatement qualifiée de coup d'État par de nombreuses personnalités, dont sa vice-présidente.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après la clôture mardi de la troisième session des pourparlers de Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés actifs dans l'est de la RDC, le dépôt des armes ne sera peut-être pas observé par ces groupes qui se disent déterminés à assurer la défense de leur patrie contre des agressions extérieures. Pour sa part, la rébellion du M23 se dit prête à se retirer des zones qu'elle occupe à certaines conditions. Un reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Les assises de Nairobi sont terminées ce mardi. Selon les communiqués finaux, aucun groupe armé n'a déclaré sa volonté d'abandonner définitivement sa lutte. Jean-Claude Mbitse est le président du collectif des mouvements pour les changements, force de défense du peuple.
Nous avons dit aux facilitateurs et à tous les participants que nous n'étions pas disposés à déposer les armes dans le format du PDDRC. Nous voudrions plutôt légaliser le port de ces armes, que le gouvernement trouve un mécanisme d'encadrer cette jeunesse qui est disposée à défendre la patrie pour se assurer une fois pour toutes que cette agression ne reviendra plus.
Il a également été recommandé dans le communiqué final au gouvernement rwandais, ougandais et burundais d'entamer des dialogues avec les groupes armés actifs dans l'est de la RDC comme les FDLR, les rebelles Hutu rwandais, les rebelles EDF venus d'Ouganda et les rebelles burundais du raid de Tabara. Pour José Walaï, activiste des droits humains congolais, l'espoir n'est pas permis quant à l'application de cette recommandation par les concernés.
Croire que ces pays vont dialoguer avec leurs fils, c'est faux, parce que ces pays profitent de la crise qui est au Congo. Pour eux, mettre fin à l'insécurité ici à l'est du Congo, c'est un manque à gagner.
Pendant la clôture de la session de Nairobi, la rébellion du M23, qui n'y a pas participé, a déclaré à travers un communiqué être prête à amorcer son désengagement et son retrait de toutes les zones qu'elle a conquises, mais dans un meeting à Rutshuru Centre ce vendredi, Willy Ngoma, son porte-parole militaire, conditionne ses désengagements par un dialogue.
Nous acceptons de partir. D'ailleurs, j'ai déjà emballé toutes mes affaires, moi. Nous sommes prêts. Mais à qui allons-nous laisser nos entités conquises? Au FDLR pour qu'ils viennent tuer nos frères? Nous avons dit ceci aux facilitateurs et aux médiateurs. Si deux personnes se battent, vous ne devez pas écouter l'un et ignorer l'autre. Mettons-nous sur la table, prêtez-nous oreille, et si nous trouvons des compromis, nous sommes prêts à déplier bagages.
Mais pour le député national du Nord Kivu, Hubert Furuguta, ces rebelles déjà qualifiés de terroristes par le gouvernement congolais doivent quitter le pays sans condition.
Le M23 a été déclaré mouvement terroriste par le gouvernement de la République démocratique du Congo et reconnu comme tel par certaines personnalités très crédibles auprès des Nations Unies. Si le M23 se retirait, que ce soit un retrait effectif, total et sans condition.
Jusque ce soir, les rebelles du M23 gardent leur position dans les territoires de Rutshuru. Pendant la journée, ils ont libéré des dizaines de véhicules qui restaient bloqués à Kiwanja pour regagner la ville de Goma. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Donc le M23 se dit prêt à commencer à se désengager et à se retirer des zones sous son contrôle, mais il veut d'abord discuter des modalités avec le médiateur et le facilitateur de la crise. Au micro d'Edi Isango, le porte-parole militaire du M23, le major Willy Ngoma, joint dans le territoire de Rutshuru.
Nous sommes prêts pour le désengagement, pour tout, pour tout ce que vous voulez. Nous sommes tellement prêts à cela. Mais certainement, nous avons demandé que nous puissions causer avec le facilitateur et avec le médiateur. D'autant plus qu'il y a des préalables qu'on puisse discuter. Qu'ils nous écoutent aussi, puisqu'ils ont écouté le gouvernement, mais ils ne nous ont pas écoutés. Mais nous sommes tellement prêts qu'ils puissent nous écouter et pour le désengagement, nous sommes prêts à le faire, monsieur.
Mais qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a quelques temps, vous disiez, vous posez la question, vous désengagez, vous retirez pour aller où? Qu'est-ce qui a changé?
Non, mais ça n'a rien changé. Peut-être que c'est votre entendement que vous avez un peu de superflu là-dessus. Mais nous avons dit ceci clairement, que nous allons... C'est là où il y a des modalités que nous avons dit, j'ai dit tout à l'heure, il est quand même, je l'ai dit. C'est-à-dire, il y a des modalités, nous allons demander, mais nous allons nous engager, bien sûr, mais on doit aller où? Nous allons y aller avec nos familles, puisque nos familles sont déjà ici, ils ont fui là où on était en train de les tirer, de les maltraiter, de manger même leur chair humaine, ils sont avec nous ici. Mais nous allons nous engager pour laisser l'endroit chez qui? Nous allons laisser l'espace, c'est le F de l'heure. Qui tue, puisqu'il y a maintenant le FDL, Codeco, Niatura Maïmaï. On doit laisser cet endroit qui puisse massacrer encore nos frères et nos frères. C'est là où nous avons dit qu'il serait mieux que nous puissions discuter cela. Mais quant à des engagements, nous sommes prêts pour le faire. Eh bien, nous sommes prêts pour l'évacuation, il n'y a pas un problème. Mais on doit discuter au préalable entre nous. On doit se déboutonner, on doit trouver un modus vivendi.
La troisième phase du dialogue de Nairobi vient juste de se terminer et votre démarche vous l'amenez en marge de travaux de Nairobi et de Luanda.
Nous avons dit, nous avons tellement, même le président Bertrand Bisimwa, il avait tellement m'appelé là, il a dit ceci. Mais nous avons remercié même ces chefs d'État qui sont là pour chercher la paix à l'est de la République du Congo. Comme nous, les M23, nous voulons qu'il y ait l'issue pacifique à la crise. Nous les remercions sincèrement. Mais il y a des préalables que nous allons discuter entre nous. Donc c'est ça, là où nous avons demandé qu'on discute avec le président Uhuru Kenyatta, non, le président honoraire, et le président en fonction, M. João Lourenço de l'Angola, qu'on discute, qu'on trouve un modus operandi afin que nous puissions évacuer, faire tout. Mais nous sommes prêts pour le désengagement, nous sommes tellement prêts, monsieur.
Le gouvernement a posé comme condition de négociation que vous observiez les cessez-le-feu et que vous vous retiriez des endroits sous votre contrôle. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous rentriez au niveau de vos campements où vous étiez, en Ouganda et au Rwanda?
Extrêmement grave, ces propos, c'est tellement des propos tellement graves. D'autant plus qu'ils nous traitent comme les Rwandais, mais ils savent. Nous n'avons aucune relation avec les Rwandais. Les Rwandais ne nous aident même pas avec une aiguille. Ils le savent. Ils ont notre effectif. Ils nous connaissent parfaitement bien. Moi qui vous parle, j'ai gardé son père, le prêtre.
Le major Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Sénégal, et nous vous le disions hier, l'opposant Ousmane Sonko a fait face mardi à Hadji Sarr, la masseuse qui l'accuse de viols répétés et de menaces de mort. Cette confrontation qui a eu lieu au tribunal de Dakar ne laisse pas de marbre les Sénégalais, même si bon nombre d'entre eux estiment que le plus important dans cette affaire, c'est l'éclatement de la vérité pour le respect des victimes de cette affaire. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagué.
14 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu durant les événements du mois de mars 2021. Des échauffourées qui ont éclaté après l'arrestation d'Ousmane Sonko, accusé par une masseuse de viols répétés et de menaces de mort. Des victimes et toujours pas de procédure enclenchée, une anomalie que dénonce Abdoulaye Sané. Pour cet étudiant inscrit à la faculté de géographie de l'Université de Dakar, il est temps que justice soit rendue.
Rendre justice et tourner cette page sans oublier les 14 personnes décédées dans cette histoire. Ces victimes sont des Sénégalais qui n'étaient pas partis pour détruire des biens ou faire du banditisme. Ils étaient allés défendre leurs convictions et des valeurs communes à tous les Sénégalais. C'est pour ça que ces citoyens ont perdu la vie. Et je pense que sans le sacrifice, certains acquis seraient
remis. Jean-François est du même avis que son ami de chambre. Pour ce juriste en formation, le droit doit être dit dans ce dossier pour que la justice se tourne vers d'autres affaires plus importantes et en attente.
Oui, il faut dire nous rendre justice une bonne fois.
Il est temps de rendre justice une bonne fois pour toutes, parce que cette affaire commence à tirer en longueur. Donc, il faut absolument vider l'affaire Sonko et surtout juger les événements de mars 2021, durant lesquels 14 personnes ont perdu la vie. Il faut savoir que les deux faits sont liés. Donc, tant que cette histoire l'histoire du viol ne sera pas réglée, ce sera difficile de tirer au clair les morts du mois de mars.
Le crime du Ampana, mois de mars passé.
Une affaire pas si simple à résoudre pour Chongjian. Pour cet étudiant spécialisé en droit public, le souci est que si la justice incrimine Ousmane Sonko dans cette affaire, d'autres émeutes peuvent éclater.
La délicatesse de cette affaire tient au fait que ça peut insurger un mouvement de révolte populaire. Imaginons que le dossier soit en défaveur du président, en quelque sorte, Ousmane Sonko. Là, on aura encore des événements encore plus chaotiques que ceux de mars.
Ce serait mieux de le voir, parce que si on laisse le dossier aussi, ça serait comment dirais-je, une route de sang.
En avril 2021, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba avait annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante et impartiale pour statuer et situer les responsabilités après que 14 citoyens sénégalais aient été tués lors d'affrontements entre manifestants et forces de défense et de sécurité. Mais depuis lors, plus rien et l'enquête est au point mort, tandis que l'affaire Ousmane Sonko à Dakar continue de défrayer la chronique. Seyna Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ici à Washington, ouverture de la 20e conférence internationale de lutte contre la corruption de Transparency International. Les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les principales institutions financières, les organisations de la société civile et des journalistes de plus de 140 pays discutent des solutions aux principaux défis mondiaux face à la corruption. Pourquoi la corruption est-elle aussi endémique et que faire pour la combattre? Nanit Talani a joint Huguette Labelle, présidente du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption.
La corruption, évidemment, a toujours existé, mais le problème, c'est que les moyens de la mettre en œuvre sont de plus en plus sophistiqués et faciles. Et par ça, je veux dire que beaucoup d'engagements sont faits, mais sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, les coups de vin existent toujours, mais les nouveaux moyens de dissimuler l'argent illicite, que ce soit dans les paradis fiscaux ou même dans n'importe quel pays du monde à l'extérieur du pays d'origine, sont tellement plus faciles aujourd'hui avec la technologie d'information, avec les facilitateurs, et ça, que ce soit avocats, comptables, agents d'immeubles, sont de plus en plus sophistiqués. Ce qui fait que c'est plus facile de vraiment cacher ces ressources illicites à travers le monde et de les retrouver, parce que bien souvent, ce sont seulement des numéros, ce ne sont pas le nom des vrais propriétaires qu'on voit sur en fait ces ressources-là dans les pays, que ce soit par ressources, que ce soit des infrastructures, ça peut être n'importe quoi de ce genre, ça peut être aussi bien dans le domaine des arts, et enfin. Donc, c'est vraiment la facilité de dissimuler l'argent aujourd'hui qui la rend plus endémique et plus difficile à retrouver ces argents. Et aussi, évidemment, le danger avec des argents illicites.
Quels sont les dangers que représente cet argent illicite?
C'est que ça facilite aussi le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic de personnes. Et donc, encore là, les moyens sont plus sophistiqués. Dans le fond, c'est vraiment ce qui rend la corruption plus endémique aujourd'hui qu'elle l'était peut-être il y a un nombre d'années passées.
Il est dit que la corruption pose aussi un problème de sécurité. Comment?
Il y a plusieurs éléments à cela. Et un, c'est que ce que la corruption peut faire, c'est que ça rend certains individus, des oligarques, des kleptocrates, beaucoup plus capables de contrôler des institutions gouvernementales et même juridiques dans certains pays ou certains éléments juridiques. Et ça alimente les conflits parce que justement, lorsqu'il y a une grande pauvreté et quelques personnes sont pas seulement milliardaires, mais 1000 milliardaires, à ce moment-là, ça crée évidemment parce que les pauvres n'ont plus d'accès à des choses essentielles de survie dans leur pays. Donc, ce que ça fait vraiment, comme je disais, c'est que ça alimente, l'alimentation de ces conflits cause des problèmes autres, évidemment, ça tue, ça détruit les infrastructures lorsqu'on a des conflits, bien comme on le voit en ce moment ici, dans un nombre de pays. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est une déstabilisation de l'État, des pays et entre pays.
Huguette Labelle, présidente du Conseil de la Conférence internationale contre la corruption. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.